Shavua Tov. Hachem a parlé directement au Bnei Israël, puis par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Et ensuite, il a invité Moshe Rabbeinu à monter sur le Sinaï. Nous allons commencer ici. La raison pour laquelle Moshe Rabbeinu va monter sur le Sinaï, c'est pour recevoir les Louchot, pour recevoir les deux tables. En fait, ce sont vraiment deux tables, et pas comme on les dessine généralement, comme c'est une table avec une séparation. C'est vraiment deux tables, distinctes. Et il fallait que Moshe redescende, et redescende avec ces tables-là. Ces tables, elles ont été présentées par Hachem comme étant entièrement Maasé Hachem, c'est-à-dire entièrement faites par Hachem, c'est-à-dire le support et l'écriture, les deux sont l'œuvre d'Hachem. Recevoir les tables, c'est recevoir un dévoilement, un gilouï d'Elohim, un gilouï d'Hachem, un dévoilement d'Hachem. Les Bnei Israël ne sont pas, ou en tout cas ne se sentent pas capables de recevoir cette lumière du Giloui, trop forte pour, d'après eux, et ils pensent avoir besoin d'un intermédiaire. Ça avait déjà commencé au moment où Hachem leur a parlé. Comme je vous ai dit, Hachem a donné les deux premières paroles directement au Bnei Israël. Mais au bout de la deuxième, les Bnei Israël ont demandé à Moshe d'être intermédiaire entre eux et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce soit Moshe Rabbeinu qui reçoive la parole d'Hachem et qui la leur retransmette, un peu comme un système de transformateur, si vous voulez. La parole d'Hachem était pour eux trop bouleversante, trop puissante. Ils voulaient que ce soit atténué, si vous voulez, en passant par Moshe Rabbeinu. Il est certain que, d'une certaine façon, c'est un échec des Bnei Israël que de ne pas avoir été capable de recevoir ce qu'Hachem voulait leur donner, c'est-à-dire 10 paroles qu'Hachem leur donnerait directement. Mais étant donné qu'ils n'étaient pas à ce niveau-là, alors c'est bien qu'ils aient pris la mesure de leur niveau et qu'ils n'aient pas essayé de vivre à un niveau qui ne leur correspond pas. C'est pour ça qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu que c'est bien. C'est pas que c'est bien dans l'absolu, c'est que c'est bien, quand on n'est pas à la hauteur, de savoir où est son propre niveau et de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, en quelque sorte. Avant de monter sur la montagne, où il va rester 40 jours, Moshe Rabbeinu était donc déjà l'intermédiaire entre Hachem et le peuple, mais Moshe Rabbeinu était d'une certaine manière dans le peuple à ce moment-là. Quand Moshe Rabbeinu monte et tarde à revenir, les Bnei Israël se retrouvent dans la situation où Voilà. Leur intermédiaire a disparu. Normalement, ils se retrouvent donc dans une situation où ils devraient reprendre une relation directe avec Hachem. Mais ils n'en veulent pas. Ils veulent une relation concrète, non abstraite. Et alors ils disent à Aaron, fais-nous quelque chose. Fais quelque chose de concret. Cet intermédiaire que les Bnei Israël vont demander à Aaron de faire, on peut se demander, comme tout le monde sait, ça n'a pas marché. Ça a débouché sur la faute du veau d'or. Mais on peut se demander, finalement, quand Moshe Rabbeinu était intermédiaire, ça marchait. Donc ce n'est pas la notion d'intermédiaire qui est mauvaise. Ce qui ne marche pas, c'est quand cette notion d'intermédiaire, elle n'est pas dans l'étude, mais qu'elle est dans l'action. Au niveau de l'étude, et avec un personnage comme Moshe Rabbeinu qui était plus humble que qui que ce soit sur terre, ça pouvait fonctionner. Mais à partir du moment où on voudrait faire la même chose dans le monde de l'action, dans le monde concret, dans le monde de la assiya, comme on dit, alors ça ne marche pas. C'est pas possible. Il faut bien mettre les choses au point. Les Bnei Israël, à ce moment-là, ne veulent pas de Elohim Acherim. Ils ne veulent pas d'un autre Dieu. Ils veulent servir Hachem dans le monde de l'action, donc, à travers un intermédiaire qui ne soit pas indépendant, mais reçoivent sa force d'Elohim, qui est la force de vie. C'est ce fameux Egel, ce fameux veau d'or. En d'autres termes, ils ont voulu prolonger dans le monde de l'action la proximité qu'ils avaient avec Hachem dans le monde de l'étude. Mais ça, c'était ce désir-là, il était impossible à réaliser. Parce que dans le monde de l'action, le corps de l'homme, la matière, son désir sont une réalité incontournable. C'est pour ça que cette démarche a basculé dans une orgie sans nom, en fait. Comme toujours, si on cherche à nier le corps, il se révolte d'une manière sauvage et irrépressible. Il y a donc eu, après les premières luchot, après le don des premières luchot à Moshe Rabbeinu, il faut se représenter, Moshe Rabbeinu est sur la montagne, il reçoit les luchot, les premières luchot d'Hachem, et en même temps, en bas de la montagne, les Bnei Israël se font fabriquer un intermédiaire. Et alors, pour bien qu'on comprenne ce qui s'est joué, c'est que j'ai déjà dit plusieurs fois que l'intermédiaire qu'ils ont eu, c'était d'une certaine manière le bon intermédiaire. Ils ont dit à Aaron, fais-nous quelque chose, un truc, un machin, parce que nous voulons remplacer Moshe Rabbeinu à Ish Moshe, l'homme Moshe, c'est lui que nous voulons remplacer. Parce que nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Et ils disent, celui que nous voulons remplacer, c'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Il y a là quelque chose qui est, c'est déjà le ver qui est dans le fruit, en fait. N'est-ce pas? C'est pas Moshe Rabbeinu qui nous a sortis d'Égypte. Comme nous disons dans la Haggadah de Pessah, lo al yedei malach, lo al yedei shaliach, lo al yedei saraf. Nous ne sommes pas sortis d'Égypte par aucun des procédés ou des processus de libération des peuples. Ça n'était pas la décolonisation. C'était pas une révolution de palais. C'est pas un changement de dynastie. C'est pas un tremblement de terre. C'est pas un tsunami. C'est rien de tout ce qu'on peut imaginer qui nous a fait sortir d'Égypte. Ce qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est l'inimaginable. C'est Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte. Dire que c'est Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte, ça veut dire qu'on ne peut pas décrire la façon dont on est sorti d'Égypte. Et de facto, d'ailleurs, dans toute la Haggadah et dans toute la Torah, il n'y a pas de description. Il n'y a jamais un moment où on zoome sur la sortie d'Égypte pour dire comment ça se passe. À un moment donné, on était en Égypte, puis après, un moment plus tard, on était dehors. Comment ça s'est passé, on ne peut rien en dire. Donc, celui qu'on voulait remplacer, c'était Moshe, mais un Moshe auquel on a attribué le rôle de « tu nous as fait sortir d'Égypte ». Ok, alors, si on cherche ce qui nous a fait sortir d'Égypte, alors je crois déjà la dernière fois on en avait parlé, le seul personnage auquel on puisse attribuer ce « il nous a fait sortir d'Égypte », c'est Yosef. J'ai dit la descente de Bnei Israël en Égypte, quand Yaakov Avinu descend en Égypte, c'est le commencement de la sortie d'Égypte. Ce qui arrive à Yaakov Avinu quand il envoie Yosef prendre des nouvelles de ses frères, c'est-à-dire il l'envoie au casse-pipe en fait, il sait très bien que les frères veulent le tuer, c'est incompréhensible qu'il l'envoie. En plus, ça ne lui donne aucune information qu'il n'aurait pas déjà eue, puisque les frères se relaient auprès de leur père, et toutes les semaines, ils viennent lui dire où ils en sont, etc. Donc Yosef ne peut rien apporter en information. Et donc, c'est quoi? C'est comme Rachid explique. Puisque la Torah, elle nous envoie un clin d'œil ici, à cet endroit-là, puisqu'elle nous parle de Emek Chevron, la vallée de Chevron. Comme chacun sait, Chevron n'est pas une vallée. Et Rashi explique qu'il s'agit du Emek, c'est-à-dire de la profondeur de la promesse qui a été faite à celui qui est enterré à Chevron, c'est-à-dire à Avraham Avinu. C'est-à-dire le choix qu'Avraham Avinu a fait. Quand, d'après le Midrash, on lui a donné le choix, il a choisi l'exil pour ses enfants. Il a choisi que les Bnei Israël seraient en exil et qu'ils seraient même réduits en esclavage, etc. Et qu'après, Hachem le ferait sortir de l'Égypte, même avec un butin considérable. Mais toute la sortie d'Égypte, elle commence par une entrée en Égypte. Pour pouvoir en sortir, il fallait bien y entrer. Celui qui a fait entrer les Bnei Israël en Mitzrayim, en Égypte, c'est Yosef. Et quand Yosef, effectivement, il est le seul qui ait dominé l'Égypte, au point qu'on puisse lui attribuer cette notion de sortie d'Égypte. Par conséquent, quand il demande quelque chose qui puisse remplacer mon cher Rabbeinu, ce qu'il aurait fourni, quoi, puisque personne n'a sculpté ou n'a voulu que ce machin qui allait sortir, là, que ce soit un taureau, un veau. Il s'est sorti tout seul. Avec la plaquette, tout ce que vous voulez, je veux bien, mais c'est sorti tout seul. Or, le taureau, c'est l'emblème de la tribu de Yosef. Et par conséquent, ce qu'ils ont, c'est effectivement Yosef. Ils remplacent Moshe par l'emblème de la tribu de Yosef, donc c'est vraiment quelque chose qui les a fait sortir d'Égypte. Seulement, que ce soit un roi, que ce soit un maître, que ce soit des parents, pour jouer un rôle par rapport à d'autres, des parents par rapport à leurs enfants, un maître par rapport à ses élèves, un roi par rapport à ses sujets, il faut qu'il en ait, que celui qui doit jouer ce rôle-là, il faut qu'il en ait, qu'il ait du poids, du kavod. C'est ça, toutes les mitzvot qu'on a de donner du kavod à ses parents, aux rois, aux professeurs, etc., c'est pour leur permettre de jouer le rôle que nous voulons qu'ils jouent, que nous avons besoin qu'ils jouent. Même chose dans un couple aussi. Kavod réciproque, pour que chacun puisse jouer le rôle que l'autre a besoin. Donc, je suis dans une position où je dois donner du poids à mes parents pour qu'ils puissent jouer leur rôle de parents, etc. Et donc, si on veut que ce machin-là leur serve de remplaçant de Moshe Rabbeinu, il faut qu'il lui donne du poids. Moshe Rabbeinu avait son poids propre parce que il était dans la dernière phase, il était avec eux, il parlait avec Hachem, ça il l'avait expérimenté, etc. Les Bnei Israël savaient qu'Hachem lui parlait. Maintenant, ils se sont demandé comment on va lui donner du poids pour qu'il joue le rôle qu'on veut qu'il joue. Personne ne savait comment lui donner du poids. Sauf que il y avait là-bas une partie du peuple qui était le Erev Rav, une partie de gens qui étaient là-bas, qui étaient probablement des gens qui sont des noms non hébreux, si vous voulez, qui sont joints aux hébreux qui sont sortis d'Égypte. Eux étaient les idolâtres. La vérité, c'est que les Bnei Israël, à ce moment-là, étaient les idolâtres aussi. Hein. N'oubliez pas. Les anges, au passage de la mer, ils ont dit « Allou ovde avodazara ve allou ovde avodazara ». Les Égyptiens sont idolâtres, mais les Hébreux aussi. Et donc la question était, mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu sauves les Hébreux et tu noies les Égyptiens? Et Hachem a répondu, je sauve les Hébreux parce qu'ils vont accepter la Torah. Ce qui est dans la règle générale, pas tellement acceptable, mais bon, c'est pas le sujet maintenant. Donc eux ont dit, nous savons comment faire, et eux ce qu'ils savaient faire, c'est comment on fait les choses dans le cadre de l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie aussi, on donne du poids aux idoles pour qu'elles jouent leur rôle. Mais justement, ce genre de poids-là est intrinsèque à l'idolâtrie. Donc quand ils ont donné ce poids-là, tout a dérivé. Mais ce n'était pas leur projet. Les Bnei Israël n'étaient pas partis pour construire une idole. Les Louchot, que Moshe Rabbeinu était en train de recevoir à ce moment-là, c'est le point central. C'est le point significatif du Matan Torah. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, allez Elai Ahara, monte vers moi sur la montagne, etc. Et je te donnerai les tables de pierre, les luchot de pierre, et la Torah et les mitzvot que j'ai écrites, le horotam pour que tu les enseignes au Bnei Israël. Effectivement, après qu'Hachem ait terminé de parler avec Moshe Rabbeinu, c'est marqué « Vaïten » Elohim lui a donné les tables. Ces tables, c'était un dévoilement de tous les côtés, de tous les points de vue. C'était lisible, comme on sait, de tous les côtés, misé ou misé. Et ces tables sont, elles s'appellent Luchot HaEdut, elles sont un témoignage sur l'existence d'un lien entre Elohim et les hommes. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il sait ce qu'il en est. Hachem lui dit, « Lech red kishichet amcha » descend, c'est-à-dire, pas seulement concrètement descend de la montagne, mais descend de ta grandeur. Tu viens de perdre ton statut en tant que privilégié. Parce que ton peuple, à savoir le Révrav, qu'Hachem avait dit à Moshe de ne pas prendre et que Moshe Rabbeinu a pris quand même, Moshe Rabbeinu a les tables. Hachem lui dit que son peuple s'est fourvoyé complètement. Il sait ce qu'il en est. Il aurait pu casser les tables à ce moment-là. Mais il les prend, ces tables qui sont Mirtav Elohim, qui sont l'écriture, qui sont une lettre en quelque sorte, un témoignage venant d'Hachem, d'Elohim. C'est le dévoilement de la réalité divine, c'est ce dévoilement qui devait se faire en faveur du peuple, mais qui évidemment ne se fera pas. Mais il descend pour aller les donner quand même au peuple, a priori. Mais au dernier moment, Moshe Rabbeinu décide de ne pas donner les luchot, et il décide de les briser. Pourquoi? Parce que les luchot, les tables en question, elles sont en contradiction absolue avec le veau d'or, avec les manifestations autour du veau d'or. Et aussi, en fait, elles sont en contradiction avec l'idée même du veau d'or. On va le voir tout de suite. Qu'est-ce qui va changer dès lors que Moshe aura brisé les tables? Alors juste avant, quand ils sont en train de descendre, Yoshua dit à Moshe, Ishmael Yoshua, il entend le bruit que fait que font les réjouissances autour du veau d'or, etc. Et lui, il pense que c'est un bruit de guerre. Mais Moshe Rabbeinu qui sait déjà tout, qu'est-ce que Yoshua lui dit? Pourquoi la Torah nous rapporte que Yoshua lui dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il peut bien lui apporter? Yoshua lui dit, ces kolot, ces cris, ces voix-là, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Mais Moshe lui dit, non, c'est pas du tout l'expression des gens qui sont sous le coup d'une émotion. Sinon, il y aurait des hauts et des bas. Ici, c'est un processus lent, calme, qui vient a priori d'une compréhension profonde, réfléchie, qui témoigne d'un accord complet d'Ebnei Israël avec le Hegel. Ils sont tout à fait en phase avec ce qui est en train de se faire. Donc, par prophétie, Moshe Rabbeinu sait tout ça. Qu'est-ce qu'il apprend en voyant? C'est marqué, il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu de nouveau? Ce qu'il a vu, c'est qu'il a vu les mecholot, il a vu les rondes. Les rondes organisées, sans saut, sans montée, descente, par un groupe qui agit, c'est quand on est dans une ronde, les gens sont sur la... Ils agissent comme un seul homme, en quelque sorte. Tout le monde va au même rythme. Ça exprime une unité, un lien, une communion dans cette avodat à Hegel, dans ce service du veau. Moshe Rabbeinu voit que les Bnei Israël sont intimement, de toute leur âme, ils sont liés à ce veau. Ils lui amènent des holot, des shlamim, des korbanot. Ils sont tous mobilisés. bien comprendre, encore une fois. Faire descendre les louchot, les donner au clan d'Israël, ça fait partie de la révélation du Sinaï. C'est pas qu'il y a eu le Sinaï, puis après il y a, accessoirement, ensuite, on a aussi donné des louchot. Le processus Matan Torah est encore en cours à ce moment-là. Le but du Matan Torah, c'était que Moshe Rabbeinu accède à ces louchot, qu'il les amène au Bnei Israël. Pourquoi est-ce qu'il fallait les amener au Bnei Israël? Parce que c'est comme dans... Il y a des halachot qu'on appelle des dinim de Kinyan. Quand on veut acquérir quelque chose, d'après le din de la Torah, il faut ce qu'on appelle gmirut dat, il faut une manifestation de ce que je suis vraiment décidé à faire cette opération, à m'engager. Je vends ou j'achète ou je m'engage ou un khatan s'engage par rapport à la kala, il s'engage à ce qui est écrit dans la ktuva. Mais il faut aussi un acte physique. Il faut un geste. Ici, le geste, c'est la descente des louchot dans le monde. Et la brisure des louchot, ça vient exprimer que les Bnei Israël ne sont pas prêts à recevoir cette formidable lumière, en fait, du dévoilement qui s'exprime par les louchot. Il y a donc deux niveaux dès lors. Il va y avoir deux niveaux. Pourquoi? Parce que Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il lui a dit, laisse-moi, je vais détruire ce peuple. Et je vais commencer un nouveau peuple avec toi. Moshe Rabbeinu a dit, il y a plusieurs midrashim à ce sujet-là, Moshe Rabbeinu a dit, ce que tu as construit avec le triplet, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Le triplet, c'est le plus stable qui soit. Et ça n'a pas marché. Tu t'imagines que ça va marcher mieux si tu construis sur un seul pied avec moi? Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, il a dit, non. Je ne suis pas candidat, je ne suis pas un nouvel Avraham, en fait. Il a dit à Hachem que si Hachem ne pardonnait pas, au Bnei Israël. Eh bien, Moshe Rabbeinu voulait que son nom soit effacé de la Torah. Comme si je n'avais pas existé. Donc, et Hachem va céder. Hachem a cédé, il a donné au Bnei Israël un sursis. Un sursis qui malheureusement va tomber au moment des Meraglim, au moment des explorateurs, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, les Bnei Israël on la vit sauf, si on peut parler comme ça. Et ensuite, ok, il ne les a pas détruits. Mais le projet divin qui est un dévoilement d'Hachem dans le monde, ce projet-là, il doit se réaliser. Un projet divin, ça se réalise obligatoirement. Alors, Hachem va pardonner et il va permettre à Moshe Rabbeinu de négocier et de remonter sur le Sinaï pour recevoir de nouvelles louchot. Il reçoit de nouvelles tables. Ce qui sera écrit sur les tables, ce sera la même chose, dit Elohim, dit Hachem à Moshe Rabbeinu, que ce qu'il y avait sur les premières. Mais les nouvelles tables, psol lecha, c'est toi qui dois les tailler, c'est toi qui dois les amener. En d'autres termes, le socle sur lequel Hachem va, si on peut parler comme ça, va écrire, va graver la même chose que ce qu'il y avait sur les premières tables, ce sont les hommes qui doivent l'amener. C'est-à-dire, en l'occurrence, Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il faut que les hommes soient partie prenante dans cette affaire. Moshe Rabbeinu a toujours voulu que les Bnei Israël soient partie prenante dans Matan Torah. Dans les trois choses que Moshe Rabbeinu a faites, sans la permission expresse d'Hachem, et peut-être même contre Hachem, à savoir qu'il a brisé les tables, qu'auparavant il avait déjà ajouté un jour supplémentaire de préparation, et le fait qu'il se soit séparé de Tzipora, son épouse, ces trois choses ont à voir avec Matan Torah. Je vais juste rappeler pour mémoire cette histoire du jour supplémentaire que Moshe Rabbeinu a ajouté. Kadosh Baruch Hu avait dit au Bnei Israël, je vais vous donner la Torah, mais vous, vous allez vous préparer, et pour vous préparer, il faut que vous enclenchiez un processus de purification, et entre autres, vous allez, pendant ce temps-là, les hommes et les femmes vont ne pas se rencontrer, c'est-à-dire il n'y aura pas de relation conjugale pendant ce temps-là. Donc, quand Hachem dit ça prend deux jours pour se préparer, ça veut dire qu'au bout de deux jours, on est prêt. Mon cher Abbé nous décide d'ajouter un jour de préparation. C'est gonflé, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que ça veut dire que mon cher Abbé nous dit à Hachem, quand Hachem veut le 6 Sivan, il veut leur donner la Torah, mon cher Abbé nous dit, excuse-nous, là, on n'est pas prêt. Peut-être tu reviens demain. C'est ça qu'il a fait, oui. C'est ça que Moshe Rabbeinu a fait. Et Hachem a accepté. Sur ces choses-là, c'est marqué qu'Hachem lui a dit, Yasher, Kochacha, Sheshibarta, tu as bien fait de briser les tables, tu as bien fait d'ajouter un jour. Il a aussi bien fait de se conduire de la façon dont il s'est conduit avec Tzipora, malgré que Aaron et Myriam ne l'avaient pas compris. Ce jour supplémentaire que Moshe a ajouté, qu'est-ce qu'il voulait, Moshe? On est pur, ouais, on est prêt. On a fait ce qu'Hachem a demandé qu'on fasse. Le clan Israël est prêt. On se rappelle, on fait encore un jour de plus. La conséquence, c'est ce que je vous ai décrit. Ça veut dire que les Bnei Israël, si Moshe Rabbeinu n'avait rien fait, alors les Bnei Israël auraient reçu la Torah de façon complètement passive. Ils reçoivent la Torah, c'est Hachem qui a écrit la Torah, il leur donne la Torah, et c'est lui qui fixe le rendez-vous, c'est lui qui leur dit comment vous vous préparez. Les Bnei Israël sont totalement passif dans cette affaire. Moshe Rabbeinu ne voulait pas ça. Moshe Rabbeinu voulait que les hommes deviennent actifs dans la relation. Or, en ajoutant un jour de préparation, on va commencer par regarder ce qui se passe. Concrètement, ça veut dire quoi? Comme je vous l'ai dit, ça veut dire que c'est Moshe Rabbeinu, donc les Bnei Israël, qui vont déterminer le jour où la Torah va être donnée. C'était prévu le 6 par Hachem, et ça va être donné le 7. Pourquoi? Parce que les hommes ont décidé, Moshe Rabbeinu, les hommes ont décidé que ça serait le 7. Donc les hommes ne sont pas seulement à la réception de la Torah. Ils sont aussi au don de la Torah. Puisque celui qui fixe le moment du don, il est partie prenante dans l'opération don. C'est lui qui a décidé quand cela aurait lieu. Donc les Bnei Israël ne sont pas seulement en train de recevoir la Torah. Ils sont d'une certaine manière en train de se donner la Torah. Puisqu'ils sont aussi du côté d'Akadosh Baruch Hu quand Akadosh Baruch Hu donne la Torah par le biais de la fixation du moment où ça a eu lieu. Ça on connaît. Tous les Moadim fonctionne comme ça. La Torah, elle nous a donné des moadim. C'est-à-dire, Hachem a dit, je vous donne des rendez-vous. Il nous donne rendez-vous le 15 Nissan. Très bien, c'est lui qui a fixé la date. Et c'est nous qui disons quand sera le 15 Nissan. C'est nous qui allons déterminer le premier Nissan. Ça veut dire que la première mitzvah qui a été donnée au Bnei Israël, alors qu'ils étaient encore en Égypte, qu'ils étaient même formellement encore esclaves de Pharo, parce que Pharo n'avait pas encore dit ce que Moshe Rabbeinu va lui faire dire au moment de Makat Bechorot, répète après moi, je, Pharo, Melech Mitzrayim, je déclare que les Bnei Israël sont libres, il n'avait pas encore dit. Alors on ne travaillait plus depuis les Makot, mais on était encore formellement esclaves. À ce moment-là, on a reçu la première mitzvah, qui est la mitzvah de fixer le calendrier, de déterminer le Rosh Chodesh. Donc c'est la création du temps des Bnei Israël. Il faut juste mettre en rapport, on ne va pas parler de ça maintenant, mais le Gaon de Vilna a dit que Baruch Ose Bereshit, qu'on dit dans Baruch Sheamar, Ose Bereshit, Baruch Ose Bereshit, c'est la création du temps. Le Gaon dit que la première chose qui a été créée dans le monde, par Akadosh Baruch Hu, c'est le temps. Ici, on dit au Bnei Israël, vous allez créer votre propre temps. Ça veut dire que dans les rendez-vous entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu, Hachem fixe la date, et c'est nous qui disons quand sera, cette date sera là. Donc on est vraiment dans la fixation du rendez-vous aussi. Et c'est ça que mon cher Avinu veut à tout prix. Il veut absolument que les Bnei Israël soient quasiment associés à Hachem dans tout ce qui se fait. Parce qu'il a compris que c'est ça qu'Hachem veut. Pourquoi Hachem a créé un monde? Pour que les hommes le prennent en charge, en quelque sorte. Pour que les hommes prennent ce monde en charge et reconnaissent dans le fonctionnement de ce monde qu'ils reconnaissent Hachem. Le monde en question, il a été créé par Elohim. Tout le monde sait, Elohim, c'est la gématria de Ateva, de la nature. D'accord. La nature aussi, c'est une création d'Hachem. Mais, ça c'est le... Il y a la nature, et puis ensuite, les Bnei Israël reçoivent un moyen de vivre au-dessus de cette nature, de ne pas être pris dans la nature. C'est pas qu'on n'appartient pas. Il y a quelque chose aussi avec cette nature, mais on a l'obligation de dominer cette nature, si on peut parler comme ça. Donc ce que Moshe Rabbeinu voulait faire, et qu'il a effectivement fait, c'est ça. Lui, il voulait que les Bnei Israël soient partie prenante des deux côtés dans Matan Torah. Ensuite, Moshe Rabbeinu voulait que les Bnei Israël reçoivent les premières luchot. Reçoivent les luchot dans la première version. Alors, je ne vous ai pas tout dit. Les premières luchot, effectivement, elles sont un maasé Elohim, c'est une action divine complètement. Et curieusement, dans ce qui est écrit sur les premières luchot, il y a toute la Torah orale. Tout ce qui va par la suite être oral, tout ça est d'une certaine manière déjà dans ces premières luchot. En d'autres termes, il n'y aura pas de travail pour extraire pour la fameuse Milchamta Shel Torah, la fameuse guerre de la Torah pour extraire, pour arracher au texte tous ses sens. Il n'y aura pas de travail. Sur les premières luchot, il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas de ce qui va s'appeler après le Amal HaTorah. L'effort dans la Torah n'était pas nécessaire dans les premières luchot. Il y avait une certaine passivité de ce point de vue-là, des Bnei Israël. Il n'y avait pas à travailler vraiment. Mais il y avait une difficulté. C'est un peu David Ameler quand il dit « Mi ya'aleh be'ar Hashem » ou « Mi yakum bim kom kocho » Qui va monter sur la montagne et qui réussira à s'y tenir? L'ordre dans lequel David HaMelech le donne, c'est l'ordre des deuxièmes luchot. Dans les premières luchot, tout le problème était de s'y tenir. Quelque part, Hachem nous prend et il nous installe quasiment dans les premières luchot. Il faut tenir le coup. Et ça, les Bnei Israël disent, on n'y arrive pas. On ne sait pas le faire, on ne veut pas. On veut un intermédiaire, donc on veut un travail, etc. Ça ne marche pas, ils ne gardent pas les... Moshe Rabbeinu voulait absolument, mais ça n'a pas marché. Jusqu'à la dernière minute, il a descendu les premières luchot, en pensant que peut-être on peut encore récupérer quelque chose. Mais quand il a vu l'adhésion complète des Bnei Israël à la formule Vaudor, c'est pas la formule idolâtre, si vous voulez. Bon, c'était... Mais dans l'idée de ce que je vous ai dit précédemment, de ce que cette notion d'intermédiaire, de ne pas avoir de contact direct avec Hachem, où on a du mal à exister dans un contact direct avec Hachem. Donc, Hachem va donner des deuxièmes luchot. Sur les deuxièmes luchot, comme le texte le dit, il y aura écrit la même chose que sur les premières. Mais il n'y aura pas la Torah, je ne sais pas comment elle était, mais il n'y aura pas la Torah orale. Celle-là, elle sera donnée à Moshe Rabbeinu de façon orale et de façon compacte. Ce qui va expliquer que quand Moshe Rabbeinu sera à l'école de Rabbi Akiva, il ne comprendra rien. Parce que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à y compris Rabbi Akiva, et tout particulièrement Rabbi Akiva, lui, ils ont déployé la Torah. Ils ont déployé, donc quand on déploie, si vous voulez, c'est comme si quand vous avez un éventail, quand il est fermé, vous voyez un peu les couleurs, mais vous ne voyez pas du tout le motif. Mais quand on déploie, quand on ouvre l'éventail, alors on voit tous les motifs. Celui qui connaît seulement la... Moshe Rabbeinu avait reçu seulement le compact, en quelque sorte. Alors, quand Rabbi Akiva lui dit, enfin il dit à son élève qui pose la question, il lui dit, mais ça c'est Alachal Moshe Misinaï, alors Moshe Rabbeinu comprend. Nous, on n'arrive pas à comprendre comment il a compris, s'il n'avait que le compact. Mais bon, ça, c'était Moshe Rabbeinu. Il y a donc deux niveaux de dévoilement d'Hachem dans le monde. Le plus haut, celui qui correspond aux premières luchot, c'est un développement permanent. L'homme est devant Elohim, comme on dit, Elohim qui rayonne vers lui, qui dirige son monde de façon évidente. Et la vie dans cette grande lumière... C'est un grand défi. C'est une très grande difficulté à supporter pour les hommes, parce que ça exige une vigilance et une disponibilité constante. Et si l'homme n'est pas à la hauteur, c'est mortel. Il n'y a pas de moyen terme. C'est ça, ou alors, comme Hachem a dit, laisse-moi, je vais les détruire. Si on n'est pas à la hauteur, plus bas que ce niveau-là, il y a le niveau des deuxièmes luchot, des deuxièmes tables. Là, le dévoilement est moins parfait, si on peut parler comme ça. C'est à l'homme de s'extraire, de s'élever, de travailler, jusqu'à ce qu'il comprenne, jusqu'à ce qu'il soit persuadé aussi de l'existence d'Elohim dans le monde. Déjà au temps d'Adam Arishon, l'homme doit travailler la terre, comme après la faute. C'est-à-dire qu'il doit s'élever à partir du bas niveau où il s'est mis lui-même, en fait. Le chet à Hegel, la faute du Vaudor, dit Chazal, c'est du même ordre que la faute du Etz Hadaat, la faute de Adam Arishon. Et on dit qu'à Mamad Har Sinai, au moment du Sinai, les traces de la faute ont disparu. Les Bnei Israël sont, au moment du Sinaï, ils sont dans l'état où était Adam Arishon avant la faute. Mais avec la faute du Vaudor, l'homme retombe à ce bas niveau. Mais et malgré des préoccupations, des occupations matérielles, l'homme doit arriver à une avodat Hashem, c'est-à-dire trouver dans la nature, dans le quotidien, le dévoilement d'Hashem dans la création. Ça, c'est ce que les Chachamim appellent « it'aruta de l'etata », l'éveil d'en bas. Par opposition aux premières luchot, où l'éveil est d'en haut, c'est-à-dire « it'aruta de l'eila », C'est un terme qu'on utilise beaucoup à Pessah. On dit que, justement, à Pessah, c'est un itaruta de Leila, c'est un éveil d'en haut. Pourquoi c'est un éveil d'en haut? Parce que toute la sortie d'Égypte n'a eu lieu que parce que Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Hachem a provoqué, il a provoqué un désir de sortir d'Égypte. Les Bnei Israël souffraient, mais il faut bien comprendre, on est près de 210 ans d'esclavage. Donc ils n'y pensent pas. Ça ne veut rien dire la liberté. Ils savent plus ce que c'est, ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont nés en esclavage, leurs parents étaient nés en esclavage. La liberté, ça ne leur dit strictement rien. Et ça aurait pu durer comme ça aussi. Comment commence le processus de libération? Il commence avec Moshe Rabbeinu. Hachem envoie Moshe Rabbeinu chez Paro. Et il lui dit, va dire à Paro qu'il doit nous laisser partir. Il doit laisser partir les Bnei Israël. Résultat des courses, aggravation de la situation. Paro donne un tour de vis supplémentaire aux Bnei Israël. Alors Moshe Rabbeinu, vous savez bien, au début, Moshe Rabbeinu se révolte contre Hachem. Il dit, mais pourquoi tu m'as envoyé? Depuis que je suis arrivé chez Paro, la situation s'est aggravée et tout. Et toi, tu n'as rien fait pour... Alors, dans Moshe Rabbeinu...
Il
n'y
a pas
d'accord
de cri?
Non, les Bnei Israël, ils vont crier justement à ce moment-là seulement. Moshe Rabbeinu dit à Hachem, donc il lui dit, c'est insupportable ce que tu m'as fait faire. Hachem lui dit, c'est vraiment très dommage de devoir faire le travail avec toi. J'aurais tellement préféré le faire avec les Avot. On me dit, Chaval al de'avdin ve'lo mishtakrin. Tellement désolant qu'il ne soit plus là et qu'il faille faire avec Moshe Rabbeinu. Eux, je leur ai fait des promesses. Ils n'ont pas vu le commencement du début, la réalisation des promesses, et personne n'a jamais rien dit. Et toi, je t'ai dit qu'on entre dans la phase de réalisation des promesses. Et parce que ça ne se déroule pas comme toi, tu penses que ça devrait se dérouler, tu viens me faire un scandale. Moshe Rabbeinu n'a pas compris ce qui se passait. Mais en fait, ce tour de vis que Paro a donné, c'est lui qui est le déclencheur. Si vous voyez, je donne toujours cet exemple-là, je ne sais pas si c'est le bon, mais enfin, quand quelqu'un a mal, et qu'il trouve une position dans laquelle il a moins mal, alors il se met dans cette position, il ne veut plus en bouger. Les Bnei Israël avaient trouvé un modus, il vient dire, c'est insupportable, mais probablement quelqu'un avait réussi à trouver un truc, j'aurais une pelure de patate en plus, ou je ne sais pas quoi, comme malheureusement dans les camps. Et c'était ça c'était ça. Alors maintenant, avec la nouvelle loi, ils ont perdu cette position. Maintenant, il va falloir se lever, il va falloir se procurer la paille pour fabriquer les briques, etc. Ça, ils n'auront plus un seul instant. À ce moment-là, ils crient. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu a créé d'en haut l'éveil des Bnei Israël en leur donnant un tour de vis par le biais de l'intervention. C'est Moshe Rabbeinu qui... C'est le commencement de la sortie d'Égypte, mais Moshe Rabbeinu ne s'en rend pas compte. Il croit que... Bon, parce que... Nous, en souvenir de ça, en souvenir de ce tour de vis supplémentaire, nous on mange le soir du Seder du Karpas. Le Karpas, c'est un apéritif. C'est un apéritif pour ouvrir l'appétit à la liberté. Et comment on ouvre l'appétit à la liberté? Qu'est-ce qu'on mange dans le Karpas? Quasiment, chacun mange ce qu'il veut, mais c'est pratiquement n'importe quel J'aurais pris Adama, quoi. N'importe quel truc qui pousse dans la terre. Et on fait la bracha. Et on dit que en faisant la bracha de Borei Pri Adama sur le carpas, sur le légume carpas, on doit penser qu'on acquitte la bracha, on acquitte le maror qu'on va manger, parce que quand, sur le maror, on ne fera pas Borei Pri Adama. On fait la filat maror, mais pas Borei Pri Adama. Donc cette bracha qu'on fait maintenant, elle acquitte le maror. Ça veut dire, on met le carpas en rapport avec le maror. Donc on met le carpas en rapport avec les herbes amères. Pourquoi? Parce que le carpas qui est l'apéritif pour ouvrir l'appétit à la liberté, comment ça a été? Avec un peu plus d'herbes amères. Alors on ne mange pas les herbes amères parce que on veut les garder pour la mitzvah de maror. Mais néanmoins, on met le carpas en rapport avec le maror par le biais de la bracha. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous refaisons, en mangeant du carpas, on refait ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte à ce moment-là. Mon cher Rabbeinu, donc, aurait voulu que l'Ibn Israël soit au niveau le plus élevé. Ça n'a pas marché. Quand Hachem dit au Bnei Israël que moi, dit Hachem, je ne serai plus avec vous, mais j'enverrai un malach. Parce que vous avez la nuque roide, la fameuse nuque roide, vous êtes trop rigide. C'est marqué que les Bnei Israël ont été endeuillés, Vaitabalu. Ils étaient tristes. Ce geste, qu'on est triste quand Hachem dit, bon, je ne sais pas, j'enverrai un malach. C'est un geste un peu primitif. Mais la tristesse, c'est, dit le Gaon de Vilna, un moum dans la avoda. C'est un défaut dans la avoda, dans le service d'Hachem, qui invalide la avoda. On ne peut pas servir Hachem dans la tristesse. Et on ne peut pas se mettre non plus dans les bons rails. C'est pas la bonne tshuva. La bonne tshuva, elle se fait de façon réfléchie et pas par émotion. Et ça, ce serait que de l'émotion. Donc, psol lecha, mon cher Rabbi nous fabrique les deuxièmes luchot. Et il y aura une situation où il n'y aura même pas les dévoilements de la présence divine dans le clan d'Israël. Mon cher Rabbi nous lui-même, il va installer sa tente à l'extérieur. De telle sorte que celui qui recherche vraiment Hachem, qui s'y est préparé, il doit sortir du camp et aller chez Moshe Rabbeinu, dans sa tente, où Hachem a rendez-vous avec Moshe Rabbeinu et se dévoile de cette manière dans le monde. La brisure, en quelque sorte, c'est le summum de l'action de Moshe Rabbeinu. C'est l'action par laquelle il sauve le clan d'Israël de la destruction. Quand il a vu que, finalement, les premières luchot n'étaient qu'un danger pour les Bnei Israël. Ils n'étaient pas à la hauteur, donc ça représentait un danger pour eux. Puisque un seul instant de Hesech HaDaat, de manque de vigilance, entraîne la destruction. Et que les Bnei Israël adhèrent complètement au Hegel, alors ils brisent les luchot. Ils ramènent les Bnei Israël au niveau 2, enfin au deuxième niveau. Ils sont vraiment au niveau qui est le leur, en fait, en ce moment-là. Et Hachem dit, je suis d'accord, c'est ce qu'il fallait faire. Et la vérité, c'est que c'est sur cette brisure que le texte de la Torah, à la fin de Zot Abraha, la dernière chose qui est dite sur Moshe Rabbeinu, Rashi rapporte que la grandeur de Moshe Rabbeinu, la puissance de Moshe Rabbeinu, c'était d'avoir brisé les tables. Dans le Lokam Israël, il n'y a personne qui ne sera jamais comme Moshe Rabbeinu. La grandeur de Moshe, le summum de la grandeur de Moshe, c'est d'avoir brisé les tables, c'est-à-dire d'avoir mis les Bnei Israël à leur niveau, au niveau qui est réellement le leur. Ce qu'il y a eu entre les premières et les deuxièmes tables, dans le texte, on voit très bien que dans le triplet de Mishkan, Shabbat et Luchot, il y a un certain ordre avant, et l'ordre est inversé après dans les Parshiot. C'est Luchot, Shabbat et Mishkan. Tout ce qu'on dit sur Hachem, il faut bien que ce soit clair, n'est-ce pas ? Y compris le Shabbat et tout, quand on dit qu'Hachem a fait Shabbat, on n'est jamais en train de dire, on ne fait pas de la théologie, on n'est pas en train de dire quelque chose sur Hachem. On est en train de dire quelque chose pour que nous le fassions et que nous ne considérions pas que c'est simplement une loi humaine, mais que c'est une loi divine. Et que, quelque part, on imite Hachem en faisant ça, mais ça ne veut pas dire qu'Hachem le fait. Le texte dit, voilà ce qu'il faut faire, Hachem fait comme ça, et bien sûr, on n'est pas en train de dire ce qu'Hachem fait. Quand on parle de Hachem monte ou descend, etc., ça veut seulement dire mesurer l'intérêt, voire le lien qu'Hachem veut avoir avec le monde et les créatures. Quand on dit que Hachem monte, ça veut dire, ça correspond à ce qu'on appelle nous Esther Panim, le visage caché, le voilement. Et ça, c'est la lumière intérieure. Et la irida, quand ça descend, c'est le dévoilement, effectivement, c'est ce qu'on appelle le hormakif, c'est-à-dire en fait la lumière extérieure qui entoure. Le Shabbat aussi, je ne veux pas être plus long, mais le Shabbat aussi, il est présenté différemment avant et après le Vodor. Avant, c'est le Shabbat d'Hachem, et après, c'est-à-dire c'est un Shabbat qu'Hachem nous donne, en quelque sorte, il fait participer à son Shabbat, Shabtotai, le Shabbatot. Et après, Sheshet Yamim Ta'avod, etc., c'est nous qui devons faire le Shabbat. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui font le Shabbat. On leur dit, voilà, vous faites le Shabbat, quand vous faites le Shabbat, vous faites ce qu'Hachem a fait. Mais vous devez faire le Shabbat, c'est à vous à faire le Shabbat. C'est de nouveau une itaruta de l'etata, c'est un éveil d'en bas. La Torah, dans ce qu'elle nous, quand elle nous décrit certaines choses, elle, par exemple dans le Shabbat, on parle de l'action, effectivement. Alors on vient nous enseigner que l'action, c'est pas le but, c'est un moyen. Si jamais l'action était une fin en soi, on pourrait pas nous dire de ne pas le faire, de faire Shabbat par rapport à l'action. Et comme c'est marqué après, c'est marqué Vaïnafash ou bien Shabbat, ou la notion de Menucha, ça veut dire que le but c'est autre chose que l'action. Ça veut dire, tous les travaux que les hommes font, ils les font toujours en vue d'atteindre un certain but. Ils veulent gagner leur vie ou bien obtenir du plaisir, etc. La notion de Shabbat, elle nous enseigne que la création, elle a aussi un but. Mais le but, c'est la rencontre entre l'homme et Elohim. Et de même que la Siyah d'Hachem, quand on nous dit que Hachem, pendant 6 jours, il a fait, etc., c'était pas un but, c'était un moyen aussi. Pour l'Ebné Israël, le travail des 6 jours n'est jamais un but en soi. C'est toujours arriver au Shabbat qui sera le temps précis pendant lequel le lien complet entre l'homme et son créateur a lieu. C'est un temps où l'homme fait Shabbat des relations matérielles, il s'installe dans une vie de l'esprit en fait. Il dépasse les contingences physiques qui l'obligent effectivement à travailler. Donc le but va donner son sens au chemin qui mène au but. Et en plus le Shabbat est appelé hôte, il est appelé signe. Et quand nous faisons le Shabbat, nous portons un hôte, un signe. Le hôte singularise celui qui le porte. Celui qui porte un signe, il est singularisé comme porteur du signe. Le Shabbat, c'est la source de toute la Kdusha du Klal Israël. La première fois qu'on parle de Kedusha, c'est au sujet du Shabbat. Le Shabbat singularise. Singulariser, ça veut dire, c'est le commencement de la Kedusha, n'est-ce pas? La Kedusha, c'est, le niveau zéro de la Kedusha, c'est la séparation. Les choses sont séparées, les choses sont séparées, c'est le commencement de la Kedusha. Quelque chose est kadosh, ça veut dire que c'est séparé du reste. Ata kadosh, Shimcha kadosh. Hachem est kadosh, son nom même est kadosh. Il est séparé. C'est la séparation qui... Donc la version laïque, si vous voulez, de la Kedusha, c'est la séparation. Quand on porte un hôte, ben on est séparé. Sinon, on n'aurait pas de hôte. Le signe, c'est un signe de séparation. On est séparé des autres. C'est le commencement de la Kedusha. Alors, on peut être... Encore une fois, le kadosh veut dire séparé. Le tov ou le mutav, ça veut dire on peut être aussi séparé pour le mal. Dans la Torah, c'est marqué. Il y a aussi la notion de kedusha pour quelqu'un qui a la prostitution. Vous avez aussi le terme de kadosh. Pourquoi il est séparé, mais vers le bas, les autres. Le Shabbat, entre les premières et les deuxièmes luchot, il va changer de sens. Quasi. Nous, notre Shabbat, nous qui sommes des gens des deuxièmes luchot, nous, notre Shabbat, c'est le Shabbat que nous faisons. C'est nous qui devons le faire. Et une des raisons pour lesquels la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. C'est parce que Shabbat, c'est un but, et la construction du Mishkan, c'est un moyen. On construit le Mishkan pour s'approcher d'Hachem. Et on repousse jamais le but devant le moyen. Il y a en fait donc deux phases, on va terminer avec ça, dans l'idolâtrie. Dans un des récits, on considère que ce qui est l'opposé d'Hachem, si vous voulez, c'est tout ce qui viendrait de la culture ou des autres. Ça peut inclure une grande partie du moi qui serait formé par des résidus du passé. Et dans l'autre récit, l'idolâtrie, c'est une recherche quasiment maniaque, affamée de nouveaux objets. Donc on peut lire de deux manières. Ou bien le vaudor, c'est une trahison de la révélation. La légèreté inexplicable avec laquelle les Bnei Israël passent de Moshe Rabbeinu au vaudor, etc. Et l'autre côté focalise sur la paralysie, justement, qui préserve des formes mortes du passé et du moi aussi. Et deuxièmement, la révélation du Sinaï, elle peut être considérée comme un affront qui manque de piété aux idées reçues du passé égyptien. Et le vaudor, c'est la réaffirmation du déjà connu. C'est une régression à partir de du vocabulaire au sens large révolutionnaire du Sinaï. Dans ce cas-là, la légèreté et la capacité à la transition ou à la transformation est absente du répertoire spirituel du peuple. Dans les accusations d'Hachem contre le peuple, c'est « le peuple a changé trop vite, maher, rapidement ». passer de l'adhésion au Sinaï, l'adhésion au... Et puis, d'un côté, il y a cette nuque roide, sclérose, investie dans des formes extérieures, c'est-à-dire l'intérieur du passé. L'intérieur ne leur parle plus, mais ils gardent quand même les formes extérieures. Dans les deux cas, le trop vite ou trop lentement, etc., le temps va être essentiel, et le temps, effectivement, est au tout début du problème, puisque tout a commencé parce que Moshe Rabbeinu était en retard, d'après les comptes d'Ebné Israël. Si le reproche, c'est inconstance, alors le temps n'est pas suffisamment internalisé, il passe sans laisser de traces. Et si la conformité aux usages morts, alors aussi, ici aussi, mais dans un autre sens, il y a un manque de temps. Il y a une régression à partir du Sinaï, qui n'a jamais vraiment eu lieu, mais... Et donc il y a deux, dans le reproche d'Hachem, il y a deux directions apparemment incompatibles. Inconstance d'un côté et rigidité de l'autre. La Gemara qui compare les Bnei Israël à une kala qui serait adultère sous la choupa suggère une immaturité, voire quasiment une débilité du clan Israël qui ne comprend pas l'importance de ce qu'il est en train de vivre. Cette erreur sur le temps, c'est quoi exactement? La question était de savoir, quand Moshe Rabbeinu a dit qu'il reviendrait dans 40 jours, est-ce qu'il fallait compter comme premier jour le jour où Moshe Rabbeinu parle, ou seulement compter à partir du lendemain? Les Bnei Israël ont compté à partir du jour où Moshe Rabbeinu parle. Et Moshe Rabbeinu l'a compté à partir du jour, du lendemain du jour. Quand Moshe Rabbeinu a ajouté un jour, il n'a pas fait comme ça à partir de rien du tout. Il s'est appuyé sur le fait que HaKadosh Baruch Hu avait dit, vous allez vous purifier pendant 2 jours. Alors, le deuxième jour, en tout cas, c'était un jour complet. Même si tu commences le premier jour, si Moshe Rabbeinu a parlé, si Hachem a parlé à midi, le premier jour, il ira de midi jusqu'au coucher du soleil. Mais le deuxième jour, il ira depuis ce coucher du soleil jusqu'au prochain coucher du soleil. Ce sera un jour complet. Alors, Moshe Rabbeinu a dit, ok, je peux faire entrer dans le 2 d'Hachem, en fait, un jour supplémentaire, parce que je veux qu'il y ait 2 jours complets, de même que le premier jour soit comme le deuxième, un jour complet. Donc ça revient à faire 3 jours, comprenez? Et alors ça, je pense que la machloquette, c'est la suivante. C'est quand on dit, je reviens dans 40 jours, alors effectivement, ces jours doivent être les mêmes. Et donc on peut dire, le premier jour, ça ne peut pas être le jour où on a parlé, parce que celui-là, il est incomplet. Par contre, comme on dit dans la Mila, le 8e jour, on fera la Mila. Alors ça, je n'ai pas besoin que les jours soient les mêmes. C'est le 8e, simplement. Et donc à ce moment-là, on va compter le jour de la naissance, même si la naissance, elle a eu lieu une minute avant la Shkia, avant le coucher du soleil, ça c'est le premier jour. On n'aura pas besoin de jours entiers. Et donc, c'est toujours cette même idée, finalement, d'accord, au niveau du temps, justement. Le problème, c'est, est-ce que le temps, c'est le temps absolu, le temps d'Hachem, en fait? Si on dit, ben voilà, aujourd'hui, ben c'est le premier, Hachem parle ce jour-là, donc c'est le premier jour, c'est automatique. Ou alors c'est un temps construit par les hommes, avec le raisonnement de Moshe Rabbeinu, puisque tu veux qu'il y ait 40 jours ou bien 2 jours, il faut que les jours soient tous les mêmes. Du coup, ça ne peut commencer que le lendemain.